franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Même pas la peine de mettre un timbre. Si vous souhaitez écrire au président de la République, il n'est pas nécessaire d'affranchir votre courrier. Enfin, dès lors que celui-ci n'excède pas 20 grammes, c'est ce que nous rappelle Paris Match, pour lequel Mariana Grappinet s'est intéressée au contenu des missives que reçoit François Hollande. 24 000 courriers par mois, plus de 200 000 tous les ans, soit au moins 1 million. Depuis son arrivée à l'Élysée. Et ce sont 60 personnes qui travaillent au service de la correspondance à l'Élysée. Parfois dans les paquets, il y a des cadeaux, des livres, des bouteilles de vin, ou encore cette gravure de Jeanne d'Arc sur peau de vache de 2 mètres de long. Sympa. Les cadeaux sont transmis au service des présents diplomatiques. Les dessins d'enfants, eux, sont tous archivés. Quant aux lettres, elles sont avant tout des demandes. Demandes de logement, de titres de séjour, de place en crèche, contestation de décision de justice. Il y a également ce monsieur qui, pour son neveu atteint d'un cancer, souhaitait obtenir une casquette à l'effigie de la présidence. La dite casquette a été envoyée. Il y a aussi cette mère d'élève qui se plaignait que le prof de maths de sa fille était absent depuis 3 mois. La lettre a été transmise au rectorat concerné. Si l'on en croit ses conseillers, François Hollande répondrait lui-même à 1 millier de courriers chaque année. En revanche, pas de réponse pour les lettres d'insultes qui représentent tout de même 15% des messages que reçoit l'Élysée. Lui, les insultes, il connaît bien. Voyage au pays de Donald Trump dans Libération ce matin.
Qui sont ces électeurs? C'est la question que s'est posée le journal.
Réponse, de très nombreux laissés pour compte, d'une Amérique ravagée par la misère et le chômage, mais également des radicaux d'une droite alternative. Bienvenue à Trumpland, c'est le titre à la une, avec un dossier de 5 pages consacré donc à ceux qui ont prévu de voter pour le candidat républicain. Un candidat que le quotidien surnomme le Messie de l'Amérique désespérée. Donald Trump, qui d'ailleurs a dû présenter ses excuses après la révélation par le Washington Post de propos on ne peut plus sexistes, des propos certes vieux de 11 ans, mais qui provoquent une sacrée polémique outre-Atlantique. Dans une vidéo, on le voit ainsi expliquer de façon éminemment vulgaire comment il a tenté d'obtenir les faveurs d'une femme mariée. Et comment il n'a pas réussi. On le voit également expliquer qu'il ne peut s'empêcher d'embrasser les belles femmes. Condamnation d'une bonne partie de la classe politique américaine, y compris de certains ténors du parti républicain. Paul Ryan, l'homme fort du Congrès, s'est même dit écœuré. Un autre a annoncé qu'il lui retirait son soutien. Mais Trump s'est justifié, arguant qu'il s'agissait de plaisanteries de vestiaire et que d'ailleurs Bill Clinton lui avait dit des choses bien pires à l'occasion de parties de golf. Il assure même que l'ancien locataire de la Maison Blanche a maltraité des femmes, Bill Clinton donc, et c'est donc dans cette folle ambiance qu'aura lieu le deuxième débat télévisé entre Donald Trump et Hillary Clinton dans moins de 48 heures.
Et toute la presse revient par ailleurs sur l'attribution du Nobel de la paix au président de la Colombie.
Un prix qui vient récompenser ses efforts pour sortir son pays d'un conflit d'un demi-siècle avec les FARC. La Colombie encouragée, commente l'indépendant, précisant que l'Académie suédoise apporte un très précieux soutien à Juan Manuel Santos et que ce prix-là tombe à pic alors que son accord de paix était quelque peu menacé suite au référendum qui l'a rejeté d'une très courte tête. Ce matin, les éditorialistes applaudissent la distinction à l'image d'Hervé Fabre dans La Voix du Nord qui parle d'un choix incontestable. La fin du conflit entre l'État colombien et les guérilleros des FARC est une très bonne nouvelle pour les populations concernées. Et on aimerait bien voir, près de chez nous, le Juan Manuel Santos capable de ramener la paix à nos portes, en Syrie. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop qui pourrait être cet homme providentiel, écrit-il. Dans la liste des prétendants au Nobel de la paix, il y avait bien les casques blancs syriens, courageux habitants d'Alep, qui portent secours aux victimes des bombardements. Mais ces héros ne peuvent que soigner les plaies de la guerre. Ils n'ont malheureusement pas le pouvoir de faire taire les armes. Alep, il en sera question ce samedi à l'ONU. Le Conseil de sécurité votera sur 2 textes, dont un présenté par la France, visant à instaurer un cessez-le-feu dans la deuxième ville de Syrie, Alep, bombardée sans relâche par Damas et par son allié russe. Nouveau témoignage d'Alepin à lire dans L'Orient le Jour, le quotidien francophone de Beyrouth. Il y a ce jeune combattant de 21 ans, devenu maintenant ambulancier. Il décrit ses nuits ponctuées de réveils en sursaut à cause des avions qui le hantent dans mes cauchemars, dit-il. Je me vois blessé ou tué. Il y a ce photographe qui explique que son quotidien n'a vraiment plus rien à voir avec la vraie vie. D'ailleurs, s'interroge-t-il, cette vie vaut-elle mieux que la mort ? Sa mère l'appelle 5 fois par jour pour s'assurer qu'il est vivant. Il y a encore ce comptable qui raconte cette roquette abattue vers 5h du matin sur son immeuble. Les habitations sont visées au hasard. Et je savais bien, confie-t-il, qu'un jour ce serait notre tour. Mais je me devais de rassurer mon épouse qui est enceinte. Et donc je lui ai dit, ne t'inquiète pas mon amour, nous sommes en vie. Ne sois pas triste pour la maison. Il y a enfin cet infirmier qui fait part de sa peur permanente. Il détaille les moitiés de corps, les membres arrachés et les blessés, parfois encore à moitié endormis, dans leur pyjama taché de sang. Pour lui, le plus douloureux, ce sont les enfants, victimes de cette guerre. Ils ne savent même pas qui est Bachar al-Assad, ni ce qu'est la rébellion. Des paroles d'habitants d'Alep, parues donc dans L'Orient le Jour et rapportées cette semaine dans Courrier International. Mais l'hebdomadaire se fait également plus léger, enfin léger façon de parler, avec cet article publié récemment dans The Guardian.
Oui, un article, Frédéric, qui nous apprend par ailleurs quel est le nouveau passe-temps des retraités néo-zélandais.
Ce n'est pas le Scrabble, ce n'est pas le bridge, ce n'est pas le tricot. Pas non plus le parachute ascensionnel, non. Depuis quelques années, le hobby à la mode, c'est la confection de cercueils. Une douzaine de clubs de fabrication de cercueils se sont montés dans le pays et ils connaissent, nous dit-on, une affluence grandissante. Cette activité permet non seulement de combattre la solitude, mais aussi de réaliser de substantielles économies, note le quotidien britannique. En l'occurrence, un cercueil fait maison coûte 10 fois moins que ceux qu'on trouve dans le commerce. Et puis c'est un système qui permet d'imprimer son style à sa dernière demeure, et ceci tout en faisant face de manière très saine à la mort, explique un retraité néo-zélandais qui, lui, a choisi de décorer sa caisse en sapin de grands motifs argentés.
Mais une fois que le cercueil est fait, où est-ce qu'on le met ?
Le cercueil, on le met en attente, je ne sais pas, dans
son
garage.
Dans son garage.
Ou alors
pas
on le laisse dans
salon.
Le club. Vous pouvez le mettre dans votre salon, certains l'ont fait
non,
déjà.
Ça peut être marrant.
La France, une terre d'accueil, vraiment ? C'est la question posée par Le Parisien, qui revient sur les vifs débats provoqués par les ouvertures de centres d'accueil pour migrants un peu partout en France. Titre à la une, migrants, les centres de la discorde. Sur fond de pré-campagne électorale, les esprits s'échauffent avec des manifestations pour faire barrage aux migrants. Manifestations organisées par des groupes liés à l'extrême droite et parfois même des incidents assez violents, comme si la peur avait remplacé chez certains notre tradition de l'accueil, souligne le journal. Un dessin de rançon pour illustrer le propos. Retour sur la dernière saillie d'Éric Zemmour. Zemmour a dit qu'il avait de l'admiration pour ceux qui mouraient pour leurs idées, lance un homme à sa femme. Et celle-ci lui répond, tu crois qu'il parlait de ceux qui se noient en cherchant à rejoindre l'Europe ? Non. Il parlait des terroristes. La peur, c'est aussi ce dont témoigne le titre à la une du Figaro ce matin. Les maires réclament les noms de fichiers S de leur ville. De nombreux élus, de droite essentiellement, mais de gauche également, souhaiteraient connaître la liste des personnes suspectes qui vivent dans leur commune. Cependant, la police et le ministère de l'Intérieur invoquent la nécessaire confidentialité des enquêtes sur les personnes radicalisées.
Et puis pour finir, le sondage effrayant du jour.
On le trouve dans Libération. 29% des Français se disent plus heureux quand ils rentrent chez eux le soir, plus heureux de retrouver leur animal de compagnie que leurs enfants. Félix et Médor plutôt que Lucas et Chloé. C'est en tout cas ce qu'assure une enquête d'OpinionWay réalisée pour une compagnie d'assurance santé pour chiens et chats. 25% des personnes interrogées, des femmes essentiellement, affirment en outre qu'elles passent moins de temps avec leur conjoint qu'avec leur petite bébête à poil. Et si ça ne plaît pas au conjoint, ils peuvent toujours s'en plaindre au président de la République. Même pas la peine de mettre un timbre.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.